Parole d'assaut, une émission de Didier Blons, mixage Gisèle Billon. Aujourd'hui, nous recevons l'APSA avec pour invité François Rosset et Rémi Dufour. François Rosset, Rémi Dufour, bonjour, c'est quoi cette APSA?
L'APSA, c'est l'association du patrimoine de Sainte-Adresse. Donc, c'est une association de 40 membres.
François Rosset.
Qui chacun viennent d'horizons différents. Certains sont plus branchés sur l'histoire, d'autres plus sur l'architecture. Et tous ont en commun la passion du patrimoine de Sainte-Adresse, ce qui n'est pas très difficile, puisque en fait Sainte-Adresse bénéficie d'un site absolument exceptionnel. Donc on a à la fois un patrimoine naturel, avec le Cap de la Hève, avec le Nissavray, avec le vallon d'Igneval. Et sur ce petit territoire, il y a quand même 4 km de littoral, dont une façade plein sud, très bien orientée, qui contrairement à beaucoup de lieux qui sont situés au bord de la mer, on a la chance d'être sur la baie de Seine. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a toute une histoire navale, toute une histoire de portuaire, et il y a plein d'histoires que nous cherchons à déterrer, à découvrir pour les faire revivre, et que les habitants de Sainte-Adresse, c'est quand même un des buts fondamentaux pour moi, et pour nous, c'est de faire en sorte que les gens qui vivent à Sainte-Adresse y soient attachés pour de bonnes raisons autres que le site, qu'ils aient en tête toute une série d'histoires qui font qu'ils n'aient pas envie de quitter Sainte-Adresse. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien.
Sainte-Adresse, ça a été créé quand, Sainte-Adresse?
Écoutez, l'origine de Sainte-Adresse, moi je vais juste vous raconter une petite histoire. Vous savez que les habitants de Sainte-Adresse s'appellent les Dionysiens. Et je ne crois pas qu'on ait une date, il y a eu peut-être un moment fondateur dont on parle dans un livre, dans notre livre « Sainte-Adresse secrète ». Mais en fait, Saint-Denis se trouve près de Paris, comme vous le savez. Et Saint-Denis, on lui a coupé la tête. Et sa tête serait tombée dans la Seine, aurait suivi le courant et serait arrivée à Sainte-Adresse, Saint-Denis, d'où le nom de Dionysien. Alors, à combien d'années et combien de siècles est-ce que ça remonte? Je ne sais pas, Rémi, tu sais peut-être.
Il est certain que Sainte-Adresse a une vie antérieure à celle du Havre.
Rémi Dufour.
Ça, c'est évident, d'autant que la création de la ville du Havre a nécessité, bien sûr, des travaux importants, mais a nécessité surtout, comme dans toute ville importante, d'amener de l'eau, par exemple. Il faut bien vivre, l'eau est importante. Or, l'eau potable, l'eau fraîche, l'eau potable, elle vient principalement des hauteurs qui sont au-dessus du Havre, et notamment de Sainte-Adresse, qui est pourvue en eau naturelle depuis des éternités. Et des eaux ont donc été détournées par ceux qui ont bâti le Havre, de façon à avoir l'eau naturelle pour leurs habitants. Donc Sainte-Adresse est antérieure au Havre. Alors le nom Sainte-Adresse, ça n'est pas tout à fait vrai. Le nom de Sainte-Adresse, non, mais la ville s'appelait Saint-Denis-Chef-de-Caux, et effectivement l'eau vient de la région de Sainte-Adresse.
Et ça s'est appelé Sainte-Adresse quand?
À partir de la Révolution, on n'a pas la date exacte. Ce sont des discussions à n'en plus finir pour savoir à quel moment exactement le nom de Sainte-Adresse venu dans certains écrits, qu'ils soient officiels ou non d'ailleurs. Ça peut être des livres d'archéologie où le nom apparaît tout d'un coup, mais au niveau état civil, au niveau nom de la cité, en tout cas, aux environs de la Révolution française.
Il est curieux de revenir aux origines aussi lointaines et aussi méconnues de la part des habitants, bah, par exemple des Havrais comme moi, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui nous viennent automatiquement lorsqu'on parle de Sainte-Adresse, le Nice-Havrais, du Fayel, le pain de sucre, Notre-Dame-des-Flots, c'est-à-dire des choses relativement récentes, ou même la batterie allemande qui répondait, je crois, déjà à une ancienne batterie qui existait encore bien antérieurement. Ça fait longtemps qu'on pose des canons sur le littoral.
Oui, mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui connaissent réellement leur date de fondation. Le Havre est une exception. 1517, c'est... Je ne crois pas qu'il y ait d'autres villes qui puissent dire « on a été créé telle année ».
C'était avant-hier.
Ben, presque, oui. Alors, oui, vous avez cité toute une série de bâtiments, comme Notre-Dame-des-Flots, qui est d'ailleurs le bâtiment le plus visité à Sainte-Adresse. Mais il y en a effectivement beaucoup d'autres, comme le pain de sucre, qui a une véritable petite histoire.
Racontez-nous là cette petite histoire.
Je ne sais pas si je suis le mieux placé, parce que vous savez, je suis président, je ne connais pas tous les détails, mais il y a un maréchal d'Empire qui s'appelle Desnouettes, et qui est mort dans un combat naval, autant que je me souvienne. Non, pas un combat naval, pas un bateau. Et donc, sa veuve a décidé de construire ce qu'on peut appeler un amer, en même temps qu'une tombe, et c'est ce fameux pain de sucre, qui est très bien situé, qui fait partie des amers. Quand vous parlez avec la responsable des phares et balises, elle vous dit le pain de sucre, c'est réellement un amer pour les bateaux, encore aujourd'hui, pardon. Bon, alors d'autres...
Notre-Dame-des-Flots est juste à côté...
Juste à côté d'ici.
Du pain de sucre.
Du pain de sucre, oui, absolument. Oui, vous suivez une petite sente.
Et ben oui.
C'est très, très agréable. Oui. Vous arrivez au Nice-Havrais.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours et pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai.
Vous avez un projet ? Prenez contact avec nous pour parler de votre association.
Alors
le Nice-Havrais, bon, il faut quand même en parler parce que certes, il y a eu, par exemple, le manoir de Wittenwald dans le Vallon qui est bien antérieur. Mais au début du siècle, il y a eu un des hommes importants de Sainte-Adresse qui, pour autant, qui est un peu un parvenu, mais qui s'appelle Dufayel et qui s'est enrichi de façon extraordinaire à Paris avec les grands magasins du Fayel, qui non seulement couvraient Paris, mais couvraient toute la France. Et ça a été pratiquement le fondateur du crédit. Et donc, il a fait fortune, non pas sur le dos, mais avec les pauvres gens, ou les gens de situation moyenne. Et donc, pour savoir si les gens allaient payer, quand on fait crédit, il faut quand même s'assurer, il avait tout un réseau de collaborateurs qui allaient voir les concierges pour savoir si les gens payaient leur loyer. Et à partir de là, ben, le magasin livrait ses fournitures avec des fiacres dans tout Paris, puisque quand même c'était le grand magasin de Paris, et à des prix beaucoup plus abordables que le bon marché qui était déjà là à l'époque.
C'était le début d'Amazon.
C'était le début d'Amazon d'une certaine façon, oui. Alors, il a racheté l'ensemble des terrains du Nice-Avray. Il a procédé à toute vitesse à des opérations immobilières qui ont été remarquablement menées, parce que le terrain n'était pas très évident. Il y a beaucoup d'éboulis, il fallait construire des routes, il fallait amener le tramway. Il voulait que tout soit à la hauteur de Deauville en particulier, qui était un peu une cible. Il prenait une sorte de revanche. Et il avait considéré à juste titre que Sainte-Adresse était mieux située que Deauville sur le plan du soleil. Déjà, on pensait à ça. Vous savez, les bains de mer, le soleil. Bon, on bronzait peut-être pas encore beaucoup à l'époque, mais lui, il y avait pensé. Il a donc fait un ensemble immobilier avec des publicités. C'est un homme de publicité, hein. Des publicités considérables en disant que Sainte-Adresse était à 2 heures du Havre, qu'il faisait beau, qu'il y aurait des champs de course. Et sur les champs de course, je peux faire une petite parenthèse, c'est qu'il y a la rue de l'Hippodrome avec les maisons des Lades, les habitats des Lades, qui étaient déjà construites, ces maisons, alors que le champ de course, lui, n'a jamais été construit parce que Dufayel est mort... est mort avant qu'il ait terminé son œuvre, entre guillemets. Ben voilà, en tous les cas, c'est un personnage important.
Avec beaucoup de légendes et des choses totalement fausses sur cet homme.
Oui, oui, il y a beaucoup de légendes et des légendes plutôt négatives, parce que les riches ne sont pas aimés d'une manière générale, et lui était extrêmement riche, et par exemple, il se permettait des choses... À un moment, il n'y avait pas de route pour amener les gens de Sainte-Adresse dans le site du Nice-Avray. Alors le maire, il fallait qu'il procède à des formalités compliquées, tout, qu'il réunisse l'argent. Dufayel dit, ne vous inquiétez pas, je paye, je fais, et quelques jours après, il avait fait sa route, et il a payé la mairie tout à fait correctement. Bon, d'autres légendes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, qu'il était parsu dans la société, par exemple, un parvenu qui n'était pas intégré. Mais le cherchait-il vraiment? Pas une certitude. Et il est mort en 1913. 16.
Rémi Dufour souffle.
Oui, absolument. Bon, et après avoir réalisé quand même ce qui reste aujourd'hui une partie très agréable de Sainte-Adresse.
Alors, il y a de belles maisons, il y a aussi cet immeuble.
Oui, alors effectivement, la base du raisonnement de Dufayel, c'était les villas. Donc, il avait construit des routes parallèles, comme l'avenue Foch, l'avenue Désiré-Dehors, la rue du Beau Panorama, le boulevard Dufayel, et puis toutes ces maisons, toutes ces villas-là. Et il avait construit également les régates, le palais des régates, et puis l'immeuble Dufayel, qui devait devenir un hôtel. Un grand hôtel magnifique, ce qu'il est d'ailleurs, c'est pas un hôtel, mais c'est un très bel immeuble. Et en fait, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas la clientèle pour ça, et il l'a transformé en immeuble résidentiel. Alors cet immeuble a toute une histoire qui est très riche et qui, pour nous, nous a permis de nous servir du Fayel comme base pour l'histoire de la présence du gouvernement belge, aussi pour l'histoire des Allemands, Rommel, qui est passé par là, et puis pour l'armée américaine, qui également s'est installée pendant quelques mois dans l'immeuble du Fayel. Donc c'est un immeuble très riche d'histoire.
Vous évoquez toute cette histoire de la Première et Deuxième Guerre. Rappelez-nous un peu ce gouvernement belge qui s'installe à Sainte-Adresse.
Ah, alors écoutez, je vais vous en parler et en même temps vous dire que c'est un sujet qui est brûlant chez nous, puisque en 2014, nous avons fêté le centenaire de l'installation du gouvernement belge à Sainte-Adresse, car ce gouvernement était pressuré par les Allemands et petit à petit se déplaçait de Anvers jusqu'à Ostende, où là il était en gros coincé. Et donc il est parti sur une malle-poste avec 1000 personnes du gouvernement, suivi par une autre malle-poste, la première malle-poste s'appelait le De Coninck, suivi par une autre malle-poste qui contenait des fonctionnaires, des employés. Et donc 2000 personnes sont arrivées en 1914. Vous imaginez, dans une petite ville où il y avait 4000 et quelques habitants à l'époque.
Et pourquoi ce choix de Sainte-Adresse ?
Ce choix de Sainte-Adresse, c'est parce que ils avaient envisagé d'aller en Angleterre, ils avaient envisagé d'autres lieux, et puis finalement, ils ont discuté avec, je crois que c'était le Premier ministre à Paris, qui a donné immédiatement l'autorisation pour Sainte-Adresse, qui évidemment était tout près, puisque toutes les villes du Fayel étaient vides. Il n'était pas encore habité, donc c'était idéal. C'était idéal et ça leur a donné un lieu de vie qui, comme toujours, les lieux de vie idéaux prêtent à polémique. Parce que pendant que les Belges, dans leur pays, souffraient le martyr sous la pression des Allemands, qui les torturaient, enfin qui les affamaient, eh bien, il y avait le gouvernement qui, pourtant, certains d'entre eux travaillaient énormément, en particulier le ministre de la Guerre et le Premier ministre, mais ils avaient beau travailler beaucoup, il y en avait d'autres qui ne travaillaient pas beaucoup, qui jouaient au tennis, parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, ils n'avaient strictement rien à faire. Donc, tout ça se colportait en Belgique. Et donc, il y avait une image de ce gouvernement qui pourtant a créé des armes, et sans lui, la Belgique n'aurait pas pu se défendre ou participer au combat à côté de la France et de l'Angleterre. Ils ont été critiqués alors qu'ils avaient fait, pour certains, un très gros boulot.
Et la dernière guerre, il y a l'occupation allemande.
Alors, la dernière guerre, il y a l'occupation allemande, mais je dirais, là, il n'y a pas tellement de différence avec le Havre. Pour parler de la dernière guerre, moi je vous situerai simplement l'histoire du mois de juin 40. En 1940, bon, tout le monde parle évidemment de l'évacuation de la poche de Dunkerque. Ça, tout le monde connaît en France la poche de Dunkerque, où il y a eu 300 000 personnes qui sont reparties en Angleterre, dont un certain nombre de Français. Et puis,
pour ceux qui n'ont pas été prisonniers.
Pour ceux qui n'ont pas été prisonniers, certes. Et par contre, il y a l'histoire du Havre, où il y avait évidemment toute une circulation maritime, et beaucoup de Havrais, au moment de l'invasion allemande, ont cherché à fuir. Et en juin 40, il y a eu plusieurs bateaux, dont le fameux Niobe, je le prends comme exemple, mais il y en a eu plein d'autres, qui sont repartis du port chargés avec le Niobe 850 personnes, qui sont pour la plupart décédés sous les bombardements des Stukas. et qui ont été coulés à quelques 10 km de la baie de Seine, enfin dans la baie de Seine, mais à 10 km du Havre. Et au total, pour faire le parallèle avec Dunkerque, bon, Dunkerque 300 000 personnes, le Havre, par bateau, 35 000 personnes tout de même, militaires ou civiles, qui sont reparties et sauvées, soit parties vers l'Angleterre, soit parties à Cherbourg.
Ne quittez pas, vous êtes toujours sur votre radio préférée.
Il est parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Des honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi, bande d'un désolé, je n'ai rien vu venir. Pourtant, on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots des confitures. Je l'ai fait de ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec notre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
Guerre à donner, la vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps.
Évidemment, si vous me poussez à la fin de la guerre, c'est une toute autre histoire. Il y a eu le fameux bombardement de 1944 qui a touché beaucoup plus le Havre, et c'est une histoire dont on a de multiples enregistrements sur les ordinateurs, notamment de Rémy. Là, le bombardement, bah, ça a été dramatique pour le Havre, ça a été dramatique pour les maisons du Nice-Havrais, puisque beaucoup, pas toutes, ont explosé sous les bombardements aériens. Mais il y a eu, je pense, très peu de morts à Sainte-Adresse comparé à la population civile du Havre qui a quand même été très touchée.
Sainte-Adresse a été touchée par les bombardements également parce qu'il y avait peut-être aussi ces fameuses batteries aériennes, enfin, ces batteries, ces canons qui étaient...
Écoutez, ça c'est une supposition que je ne confirmerai pas, sauf... Non, je ne la confirmerai pas parce que je crois que vraiment ils avaient comme cible les... Les Anglais avaient comme cible les Allemands, mais en fait, ils ont malheureusement tiré dans le tas. Et on connaît la catastrophe, les traumatismes et tout ce qui en reste encore aujourd'hui. Quand vous relisez le livre Par amour, là, qui a été, c'est un roman, mais ça a été consacré au sujet d'une façon quand même assez intéressante.
Et les drapeaux en berne à la libération.
Et les drapeaux en berne à la libération, parce que effectivement, on était content de voir les troupes alliées défiler, et en même temps, il y avait un malaise profond. Et donc, on faisait pas comme à Paris. On criait pas
victoire.
Victoire, oui.
Cette association, l'APSA, vous vous réunissez tous les combien? Ce sont plutôt des jeunes, des vieux
Ce sont... D'abord, on se réunit une fois par mois, plus des voyages, plus un certain nombre de culturels, hein, évidemment, tout est à base quand même culturelle. Ce sont des jeunes, vieux, c'est-à-dire
des passionnés,
des retraités
donc.
Pour la plupart, mais pas uniquement, et des passionnés, oui, absolument, oui. Mais de fil en aiguille, vous apercevez qu'il y a beaucoup de gens qui ont en eux une passion qui n'était pas connue, puis ils se disent, tiens, parce que les histoires, vous savez, c'est ce qui fait vivre les gens, finalement. Et donc, ben oui, il y a l'histoire des Belges, il y a l'histoire il y a beaucoup d'histoires, et donc chacun essaye de retrouver un peu de son passé, ou de l'histoire de sa famille. Enfin, il y a des raisons que je ne peux pas expliquer, chacun a ses propres raisons. D'autres, c'est purement la recherche historique. Mais alors, pour reprendre votre exemple, là, quand vous dites quel âge ont-ils ? Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, ce sont quand même des jeunes. Et je vais là passer la parole, si vous me le permettez, à Rémi, pour vous expliquer quelque chose que l'on vient d'achever aux côtés de la mairie, qui finance, en l'occurrence. C'est le parcours numérique sur les Belges, où on a fait quelque chose de très moderne.
Ah oui, alors à la demande de la municipalité, nous avons installé...
Rémi Dufour.
Enfin, créé et installé en s'appuyant sur une application que l'on trouve sur smartphone, un parcours mémoriel. Un parcours mémoriel de la présence, on revient un petit peu en arrière, de la présence du gouvernement belge pendant la guerre 1914-1918. Et on a voulu remettre un peu en mémoire les différents sites important, il fallait en cibler bien sûr, mais les différents sites importants qui restent un peu visibles de la présence belge pendant la guerre. Il y a bien sûr la statue du roi Albert, statue qui n'existait pas encore, bien sûr, elle a été érigée en 1938, mais c'est le début du parcours et on va donc juste sur le boulevard du Fayel, en passant par l'immeuble du Fayel où était présent la plupart des ministères, et on se dirige jusqu'à la place du maréchal Joffre, où il y avait l'hôtellerie, où habitaient donc toutes les familles des ministres, et où se réunissaient les ministres belges avec le comte de Broqueville, lorsqu'il était président du conseil. Et on revient donc par le bord de mer où il y avait la Villa Louis XVI, le ministère de la guerre, la Villa Louis XIII avant, et ainsi que le palais du commerce où étaient la plupart des ambassadeurs des différents pays accrédités auprès du gouvernement belge. Donc c'est tout un parcours mémoriel qui a été monté, qui a été installé avec un journaliste qui présent lors de la venue du gouvernement belge pendant la guerre, fait visiter en fait les personnes qui participent à cette promenade. Donc c'est tout un ensemble qui a été mis en place et qui nous a pris effectivement assez de temps pour rassembler les éléments et puis pour faire vivre de façon tout à fait ludique cet épisode particulier.
Avec les smartphones, l'utilisation des smartphones.
Avec les smartphones, qu'ils soient de type Apple ou bien de smartphone Google, si vous voulez. Ouais.
D'ailleurs, puisqu'on parle des nouvelles technologies, j'imagine qu'on peut vous retrouver un certain nombre d'informations, peut-être sur Internet ou une page Facebook.
Alors, nous avons un site, effectivement, oui. Nous avons un site de l'Association pour le patrimoine de Sainte-Adresse, où on donne quelques informations sur les différentes actions que nous avons faites. François vous a parlé tout à l'heure des expositions sur Notre-Dame-des-Flots, puisque nous avons profité du 150e anniversaire de la chapelle Notre-Dame-des-Flots pour remémorer cette chapelle. Puis 2 ans plus tard, du 100e anniversaire de l'immeuble du Fayel, puisqu'il est bâti, il a été livré à Georges du Fayel en 1911. Donc en 2011, nous avons profité de cette date pour remémorer cette affaire. Et sur le site, bien sûr, on a remis en mémoire ces différents événements que nous avons refait vivre.
François Rosset, Rémi Dufour, je vous remercie. C'était le 62e numéro de Paroles d'Assaut, une émission de Didier Blons, mixage Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions l'APSA que l'on peut donc retrouver sur les sites internet, page Facebook. Il y a un certain nombre de renseignements que vous pourrez retrouver. Merci à François Rosset, merci à Rémi Dufour. Au revoir à tous.
Au revoir.